J'aimerais ce matin vous raconter une engueulade entre deux vieux potes. Le premier croit en la croissance et même en la capacité de la croissance de régler les problèmes qu'elle a elle-même posés. Le second milite pour la décroissance. Il dit qu'on n'a pas le choix, qu'il faut ralentir si nous voulons ne pas périr. Décroissance, frugalité, ralentissement, le premier a vraiment du mal. Toute sa vie, toute son énergie, il les a toujours employés à croître. Après plusieurs échecs entrepreneuriaux, il a réussi à monter une boîte qui cartonne. Ce fut dur, long, mais désormais, c'est le triomphe, et ce triomphe se chiffre en hausse de sa production, en hausse également de la consommation de ses produits. Des produits verts de surcroît, beaucoup moins énergivores que les produits de la génération d'avant. Ce triomphe, il le vit dans des avions, il vit en voyageant de par le monde, il le vit en se faisant construire une piscine. Ne lui jetons pas la pierre tout de suite, c'était son rêve, il s'est battu pour lui et désormais il le vit. D'ailleurs, son ami le reconnaît. Il comprend que ce qu'il lui dit est difficile à entendre. Il sait ce que c'est que la validation émotionnelle. Mais quand même, à un moment, il faut bien qu'il lui dise. Ton rêve, c'est lui qui détruit le monde. Ton rêve, c'est lui qui détruit la planète. C'est tout ton logiciel mental qu'il faut changer. Toute cette idéologie de la croissance, verte ou pas verte, qu'il faut déconstruire. Il multiplie les arguments, mais rien n'y fait. Jusqu'à cet argument-là. Tu vois ton fils, il a 25 ans maintenant. À quel âge a-t-il arrêté sa croissance ? Bah, je sais pas pourquoi tu me demandes ça, à 18 ans ? Et depuis ? Bah quoi depuis ? Depuis, a-t-il arrêté de se développer ? Tu vois bien que ton fils a cessé de croître, mais qu'il a continué à se développer autrement. Là, il voit que quelque chose passe dans les yeux de son pote. Eh bien, mon rêve à moi, reprend-il, c'est qu'on fasse pareil avec le monde, que l'on arrête de croître, mais qu'on développe un autre type d'économie, faite de circuits courts, de relations d'entraide, un autre rapport à tous les vivants, une autre manière d'être humain, de prendre soin des autres et de l'avenir, une autre réflexion sur ce dont nous avons vraiment besoin, sur ce qui peut nous rendre heureux. Tu vois, pour moi, la décroissance, c'est ça. Cet espoir que nous puissions, en produisant et en consommant moins, nous développer plus, plus durablement, plus solidairement, peut-être même plus joyeusement. Pour en parler ce matin de cette engueulade entre potes et de cette économie de la croissance, j'ai la joie de recevoir cet ami patient et pédagogue, économiste, chercheur, auteur au seuil du best-seller « Ralentir ou périr », l'économie de la décroissance, Timothée Parik nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons nous demander comment, pour ne pas périr, réussir à ralentir.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Timothée Parik.
Bonjour.
Merci d'être là, vous allez bien ?
Oui, ça va.
Alors on va profiter de votre présence pour faire un rappel de tous ces concepts à partir de votre livre, hein, « Ralentir ou périr » aux éditions du Seuil. Et d'abord, peut-être on pourrait commencer par ça. Comment on pourrait définir la décroissance ?
Alors dans le livre, moi je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors ça c'est un peu la définition de dictionnaire que j'ai construit au fil de ma carrière académique.
Parce que je précise que vous avez fait une thèse là-dessus.
Oui.
Voilà.
Alors j'ai fait une thèse que j'ai commencée en 2016, donc presque 4 ans. Et moi, c'était ma grande question. Donc je suis arrivé en tant qu'économiste. Comment théoriser la décroissance pour la différencier d'autres phénomènes de contraction économique comme la récession qu'on connaît, comme le confinement qu'on ne connaissait pas à l'époque mais qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, on va dire que les grandes caractéristiques de la décroissance, premièrement, c'est le ralentissement. Donc produire et consommer moins. Alors bien sûr, quand on fait un peu d'économie, ça, on sait que c'est un phénomène macro, pas micro à l'échelle d'un individu, pas méso à l'échelle d'une entreprise, macro à l'échelle d'une communauté économique, hein, souvent un pays. Donc c'est le résultat agrégé de plein d'actions différentes. Il y en a qui vont consommer plus, il y en a qui vont produire moins, mais le grand total de toutes ces actions, si on avait un tableau Excel où on rentrait toutes les choses qu'on produisait et qu'on consommait, bah, d'une période à l'autre, si ça augmente, on appelle ça de la croissance, si ça baisse, ça serait de la décroissance. Mais bien sûr, ce qui rend le concept de décroissance intéressant, et c'est comme ça que je l'ai théorisé, c'est que c'est pas une contraction aveugle, comme ça, aléatoire, c'est que ça serait une contraction qui permettrait de faire baisser l'empreinte écologique, ça c'est le premier élément. Et ensuite, j'en rajoute trois autres, donc la démocratie, la justice et le bien-être. Donc, arriver à résoudre un petit peu ce Rubik's Cube de la transition écologique, faire baisser l'empreinte écologique, mais de le faire d'une manière socialement acceptable, d'une manière juste et d'une manière qui soit désirable.
Alors, Timothée Parik, on comprend l'idée. À vrai dire, on a du mal à l'imaginer, tout simplement. C'est-à-dire qu'on comprend ce que vous dites, mais on a du mal à imaginer concrètement, parce que ça leur reviendrait à imaginer, au fond, la fin du capitalisme, d'une certaine manière. Comment ça se fait que ce soit plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ?
Ah oui, moi c'est l'une de mes phrases préférées. Il y a une petite anecdote qu'on adore chez les économistes, c'est de l'époque de la crise financière de 2008. Il y avait la reine d'Angleterre qui est allée visiter la London School of Economics. Ouais. Et elle avait posé une question, elle leur avait demandé « Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vu venir ?» Alors, pourquoi est-ce qu'on vous paye, quoi ? Et donc, les économistes, ils avaient dû, un peu dans le malaise, écrire une lettre officielle à la reine, et ils ont utilisé ce terme, une crise de l'imagination collectif. C'était ça, une crise de l'imagination des économistes. Et on est en plein dedans, en fait, on a atteint ce que certains appellent le présentisme, donc on est enfermé dans le présent, et on n'arrive pas à imaginer le futur qui soit radicalement différent du présent. Et d'ailleurs, la croissance, c'est une vision du futur qui est assez quantitative. C'est-à-dire, en fait, le futur, c'est le présent, mais plus gros.
Oui.
C'est le présent plus 10%. C'est un peu une version des soldes. Mais du futur, on n'arrive pas, surtout les économistes, on va dire qu'ils ne sont pas les plus à même. On va dire que ce n'est pas les plus équipés pour penser créativement aujourd'hui de toutes les disciplines et encore moins de tous les...
Ils apprécieront.
je m'auto-tire dans la jambe pour commencer. Mais c'est vrai qu'on a tendance... Alors que quand on étudie un petit peu l'histoire économique, et surtout l'histoire des pensées économiques, ben on voit que le capitalisme, c'est l'une des options parmi beaucoup d'options. Il y a même des variétés de capitalisme. Et même aujourd'hui, quand on regarde l'économie réellement existante, on va prendre juste en France, où on a certaines initiatives dans l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas, par exemple, des coopératives à lucrativité limitée, des ressourceries, des recycleries, des monnaies locales. En fait, ça, c'est des initiatives qu'on ne pourrait pas qualifier de capitalistes. C'est un petit peu une économie post-capitaliste qui existe déjà dans l'ombre. Et on peut assez facilement, en tout cas en théorie, imaginer ce qu'on appelle un basculement systémique à un moment donné où dans le futur, peut-être ces initiatives qui sont aujourd'hui minoritaires deviendront majoritaires de la même manière qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les initiatives capitalistes qui étaient minoritaires, les comportements de marchands, de banquiers, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup et on les considérait un petit peu comme des weirdos, ils sont popularisés, ils sont démocratisés. Il y a eu ce basculement capitaliste, une économie féodale qui a basculé dans le capitalisme et je pense qu'on peut arriver à imaginer un basculement du capitalisme vers une autre économie qui serait donc post-capitaliste.
Voilà, votre thèse, par rapport à tous ceux qui disent « mais on n'a pas d'autres systèmes, on ne connaît pas d'autres systèmes », votre thèse, c'est de dire « écoutez, il y a un moment, il y a trois siècles en gros, ou quatre, on a basculé dans le système capitaliste, ça veut donc dire qu'on pourrait basculer hors du système capitaliste ».
Oui, et même quand on regarde aujourd'hui, secteur par secteur, si on regarde même des pays pas si distants que ça, on va prendre l'Autriche et Vienne, qui est une ville qui a une particularité d'avoir... déclaré après la Seconde Guerre mondiale que tout le secteur immobilier se ferait en dehors de la logique des profits. Se dire le logement c'est tellement important, c'est à but non lucratif. Et donc ils ont démarchandisé, ils ont sorti du capitalisme l'immobilier qui est dans notre imaginaire quelque chose aussi très ancré sur la capitalisation. C'est quelque chose dans lequel on investit, en tout cas dans notre imaginaire ici en France et dans beaucoup d'autres pays. Et donc on voit bien de passer de Paris à Vienne, on passe d'une économie où le logement est complètement marchandisé à une économie où le logement est complètement démarchandisé. C'est l'équivalent d'une machine à se projeter dans le temps. C'est presque de la science-fiction. Et quand on regarde ville par ville, région par région, on arrive à identifier plein d'initiatives en fait, qui pourraient annoncer un système qui serait radicalement différent que celui qu'on a aujourd'hui.
Et bien pour essayer d'imaginer la possibilité de ce nouveau monde, je vous propose, Timothée Parigue, d'écouter ce discours que vous connaissez sûrement d'un étudiant à AgroParisTech.
Quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite ? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop ? Et puis, un burn-out à 40 ans ? Ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. Vous pouvez bifurquer maintenant. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
C'est étonnant, hein. Donc AgroParisTech, c'est la plus grosse école d'ingénieurs dans ce domaine-là, et on a des étudiants qui ont fait leurs études pour faire cette école, et qui, à l'heure d'être diplômés, quelque part se tirent une balle dans le pied et invitent à déserter. Je crois que le mot est important.
Oui, et je pense que c'est presque un réflexe de survie. Déjà, il y a la problématique écologique où on se rend compte que le capitalisme et son impératif de croissance, en fait, nous emmènent à produire et consommer plus, davantage, et je le détaille bien dans le livre, ça nous mène à une impasse,
oui,
où en fait on n'arrive pas à faire revenir nos empreintes écologiques sous le seuil des limites planétaires. Donc ça, c'est vraiment une problématique de survie la plus directe possible.
D'ailleurs, je vous arrête juste là-dessus, préciser toutes les limites planétaires qui sont franchies, parce que vous commencez votre travail par ça.
Oui, alors ça, c'est un petit peu mon... Je pense que 80% de mon travail, c'est de répéter à chaque fois que les économistes nous parlent de décarbonation, le fait que la soutenabilité ou la durabilité, c'est pas une question de carbone, c'est une question de stabilité des océans, c'est une question de biodiversité, d'usage des sols, c'est une question d'émissions de produits chimiques, de maintien de la couche d'ozone, c'est une question de la biodiversité dans l'eau, sur Terre, c'est une question, bien sûr, de changement climatique. Et ça, c'est lié, en fait, à plein de ressources. La biomasse, les métaux, les matériaux, plein de choses que l'on utilise. Et donc, quand on fait de l'économie écologique, nous, on regarde ce qu'on appelle le métabolisme biophysique d'une économie. Donc, on regarde un petit peu tout ce qui traverse une économie. Et le but du jeu, c'est pour ça que je fais toujours l'analogie avec le Rubik's Cube,
oui,
c'est qu'on doit avoir toutes les couleurs, et pas juste la couleur carbone. Donc, les économistes s'excitent beaucoup sur la couleur carbone. Par exemple, ils vont se dire « Ah bah tiens, les voitures, ça pollue. Et bah donc, on va faire des voitures électriques. » Mais après, on se rend compte qu'on n'a pas assez de matériaux pour électriser toute une flotte de voitures, surtout si on produit de plus en plus de voitures et que ces voitures sont de plus en plus grosses.
Ouais.
Alors que si on essayait de résoudre les deux couleurs, au moins empreinte matière et empreinte carbone, on se rendrait compte qu'on aurait intérêt à utiliser moins de voitures, et quand on utilise des voitures, mieux les partager et surtout produire des voitures électriques plus petites et beaucoup plus légères, qui seraient moins gourmandes en matériaux.
D'accord.
Mais je reviens juste sur le point, donc il y a cette survie qui est liée à notre situation écologique, et il y a aussi ce sentiment de pourquoi perdre sa vie à la gagner. Donc là, c'est pas nouveau. Moi, il y a un mouvement en Chine que j'aime beaucoup, c'est le mouvement s'allonger par terre,
ouais,
qui a émergé il y a quelques années, où pareil, des révolutions étudiantes, des gens qui ne comprenaient pas trop l'intérêt d'aller faire une école de commerce pour apprendre des trucs, des théories désuètes, pour justement muscler sa capacité à penser profit, faire du business, pouvoir créer des boîtes, se mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans de surtravail pour se retrouver avec beaucoup d'argent, mais misérable, comme nous disent très bien les psychologues, les sociologues et les philosophes qui étudient les comportements matérialistes et consuméristes. Et donc, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste, en fait, se concentrer sur les choses qui nous apportent du plaisir, donc tous ces concepts de sobriété heureuse, de minimalisme, d'hédonisme alternatif, de frugalité abondante, il y en a beaucoup dans la littérature sur la décroissance, et de se dire, moi, non seulement j'ai pas envie de contribuer à cette économie qui est en train de détruire le monde, et surtout j'ai pas envie de me détruire moi-même en donnant des heures pour la destruction du monde. Donc là, c'est un petit peu une double destruction. Donc ça ne m'étonne pas qu'il s'échappe. Moi, justement, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens
qui désertent.
Et
vous expliquez dans votre livre que le mot déserter renvoie à une valeur positive. C'est pas que négatif de refuser, c'est aussi de dire oui à quelque chose de meilleur. On déserte,
oui,
pour des valeurs, en fait.
Même moi, souvent, je parle de sabotage. On pourrait parler de... j'aime bien la révolution par la paresse. En fait, de se dire, aujourd'hui, ne pas allouer des heures à des activités destructrices, ça crée de la valeur. C'est dur à comprendre, ça, dans un prisme capitaliste où on a l'impression que quand on bosse, on crée de la valeur. Mais si, par exemple, on bosse dans une boîte qui va venir dégrader, on va dire, qui va venir aller creuser le fond des océans pour trouver des métaux, qui va générer en fait énormément de dégradation écologique, on crée ce qu'on appelle de la disvaleur. C'est-à-dire qu'on va peut-être arriver à distribuer des dividendes à quelques actionnaires déjà riches, ce qui va augmenter les inégalités. Ça déjà, c'est la première externalité négative de l'activité. Mais ensuite, ça va générer une note écologique faramineuse qui, à un moment donné, soit va devoir être payée pour pouvoir organiser la réparation, soit va se traduire par une perte de bien-être pour les gens qui bénéficient de ces services écosystémiques. Donc c'est dur de se dire que cette personne, en fait, on gagnerait de la valeur, on s'enrichirait si cette personne travaillait moins, genre collectivement.
Il faudrait donc distinguer, au fond, créer de la valeur et créer de la véritable richesse.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. baise le monde, nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survette. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survette? Il sort 12 survettes.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et tram. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana.
Orelsan baise le monde.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec l'économiste Timothée Parik et c'est passionnant. On essaye de comprendre ce concept et sa nécessité de la décroissance. On parle de votre livre « Ralentir ou périr ». Avant d'écouter Orelsan, qui parlait aussi de ça, on distinguait peut-être la production de valeur au sens monnayable, au sens du capitalisme, de ce qui serait une véritable production de richesse. Est-ce que cette distinction, elle ne peut pas nous éclairer ?
Elle peut nous éclairer, et ça part de là. Il y a cette réflexion assez critique autour du produit intérieur brut, qui est devenu un petit peu un totem de performance dans nos économies contemporaines. Et la véritable question derrière, c'est mais qu'est-ce que la valeur véritablement ? Et donc on peut se rendre compte que, par exemple, si je détruis quelque chose qui détruit de la valeur, par exemple, si j'arrive, un mouvement citoyen arrive à faire fermer des lignes nationales ou arrive à faire annuler la construction d'une autoroute inutile, en fait, on s'est enrichi. Même si au sens de la comptabilité nationale, le PIB potentiel va baisser. Mais en termes de valeur économique, c'est-à-dire de capacité à satisfaire des besoins concrets, notamment des besoins écologiques ou plutôt des besoins sociaux à travers les écosystèmes, et là, on s'est enrichi.
Si on vous comprend bien, ça revient aussi à le problème, pour aller dans votre sens vraiment, c'est qu'on a été élevé dans l'idéologie de la croissance, qu'on nous a appris que la croissance réglait tous les problèmes, que la croissance était bien, que la croissance a créé des emplois. Donc comment on fait pour déconstruire cette idéologie de la croissance ?
En socratisant un petit peu cette hégémonie de la croissance, moi ce que je me rends compte quand je fais mes conférences, c'est que la plupart des gens, en fait, ils parlent de la croissance, mais sans savoir ce que c'est. Et là, je ne vais pas faire l'économiste arrogant ou quoi, mais c'est que la croissance, on a tout un imaginaire collectif autour. Donc, dans les sondages, on demande aux gens s'ils veulent de la croissance. Ils vont dire oui, parce qu'ils imaginent un petit peu que la croissance économique, c'est la croissance, par exemple, de leur salaire ou de leur pouvoir d'achat, ou que c'est quelque chose, une manne de progrès, ou ça va leur permettre d'avoir des emplois, ou je ne sais quoi. Mais en vérité, le lien entre augmentation du PIB et éradication de la pauvreté, baisse des inégalités, maintien ou augmentation de l'emploi, toutes ces choses-là, ce n'est pas des liens directs. Et parfois, on peut très bien avoir une augmentation de la croissance, qu'on appelle une croissance anti-économique, qui va venir dégrader la qualité de vie, qui peut détruire des emplois, qui peut augmenter la pauvreté et élargir les inégalités. Donc, il faut se poser la question du pourquoi. Et moi, c'est un défi que je donne pour éviter... Vraiment, le premier conseil du manuel d'autodéfense intellectuelle contre l'enfumage économique, c'est d'éviter le jargon. C'est-à-dire que quand on parle de croissance, croissance de quoi ? Pour qui ? Quand et comment exactement ? Pareil, quand on parle de l'emploi, ça c'est vraiment un jargon vide de sens. Alors qu'on rentre dans l'emploi, c'est quoi ? C'est l'utilisation de notre temps pour faire des choses qui ont un sens derrière. Pareil pour des termes, là en ce moment on passe des heures et des heures entre économistes à parler de compétitivité. Et c'est ça un petit peu la nouvelle marotte des politiques européennes, il faut avoir de la compétitivité. Personne n'a jamais défini ce que c'était que la compétitivité. Et donc là, il faut retourner à la base de l'économie politique, vraiment, qui est une économie, ça sert à économiser, c'est-à-dire ça sert à faciliter collectivement la satisfaction des besoins, et à partir du moment où ça ne fait pas ça, eh ben, il faut commencer à s'inquiéter.
Surtout que les études ont montré, dans toute l'économie du bonheur, les travaux de Sir Richard Layard par exemple, qu'une fois qu'on a satisfait des besoins primaires, plus de revenus ne fait pas plus de bonheur, plus de produits, plus de consommation ne rend pas plus heureux.
Oui, un seuil de satiété. Et je pense qu'on le comprend instinctivement, que ce soit pour penser à n'importe lequel de vos besoins. Boire, manger, se soigner, se vêtir, se loger, se déplacer, tous ces besoins y répondent à un taux de satiété. J'ai pas besoin d'avoir un taux de croissance de 3% du nombre de vélos dans mon garage chaque année. Si j'ai pas de vélo, je passe d'un vélo, je serai content. À partir du 30e vélo, ça va quand même créer un problème de place. Si j'ai besoin d'avoir, de passer de pas de vélo à un vélo, si j'ai besoin d'avoir un vélo. Et donc, on a cette relation de besoin, qui est une relation de suffisance, de se dire, voilà, il faut juste avoir ce qu'il faut. En suédois, on dit, c'est la philosophie du lagom. C'est juste assez, mais pas trop. Mais c'est bizarre, quand on parle de macroéconomie, là, on oublie cette sagesse ancestrale et on se dit non, l'économie, elle est censée constamment, comme une roue de hamster, accélérer et devenir de plus en plus grosse. Et moi, c'est une question que je pose, et je la posais quand j'étais première année en licence d'économie. En fait, elle est où la ligne d'arrivée ? Il est où le sommet du progrès économique ? Et ça, c'est une question, les économistes, ils n'ont pas de réponse, vu que dans le prisme de la performance économique à travers la croissance, eh ben, le futur, c'est juste une accélération constante du rythme de production.
D'ailleurs, Hegel, philosophe allemand, dès le début du 19e, observant la logique capitaliste, disait ben, « on n'y arrivera pas, il n'y aura pas assez de place sur Terre, il n'y aura pas assez de réserves, il faudra coloniser l'espace ». Il le disait déjà, il y avait quelque chose de pré-Elon Musk chez Hegel, qui disait « on aura besoin de trouver des nouveaux marchés, parce qu'on aura trop de produits, on aura épuisé les ressources, il faudra aller ailleurs ».
Il y a un penseur britannique, Aaron Bastani, qui lui parle de communisme de luxe. Donc c'est une pensée productiviste de gauche. Et en réponse à cet argument comme quoi il n'y a pas assez, par exemple, de métaux et de matériaux sur Terre pour construire toutes les infrastructures d'énergie renouvelable pour que l'économie puisse produire de manière exponentielle année par année, lui, sa stratégie, c'est d'attraper des astéroïdes avec un lasso géant pour les ramener dans le centre gravitationnel de la Terre et pour pouvoir y puiser des métaux. Donc c'est assez marrant quand moi je parle de créer des monnaies locales, des ressourceries et de partager des machines à laver, on me traite d'utopiste. Et quand on parle d'attraper des astéroïdes au lasso, où là vraiment on est dans la science-fiction la plus totale, même dans Star Wars ils le font pas, et ben ces gens-là, les technosolutionnistes, eux on les appelle des réalistes et des pragmatiques.
Alors technosolutionniste, c'est la figure de Dédale dans la mythologie grecque, qui voulait réparer par la technique tous les problèmes que la technique avait posés. Alors on se souvient, il a créé un labyrinthe pour enfermer le Minotaure qu'il avait déjà créé. Et puis quand il s'est retrouvé enfermé dans le labyrinthe avec son fils Icare, il a voulu créer des ailes artificielles pour se rapprocher du soleil. Donc finalement, c'est la principale objection, elle vient aujourd'hui de tous les dédales. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter un son de un monsieur qui s'appelle Jacques Percebois, qui quelque part est un peu le nouveau dédale.
Alors, dans un premier temps, c'est vrai que les activités industrielles en particulier génèrent des coûts à l'environnement, ce qu'on appelle des externalités. Et donc, il faut en tenir compte, ça entraîne des coûts pour les entreprises si l'État intervient en réglementant. Et donc, ces entreprises doivent réagir. Et la solution, c'est l'innovation. Et en fait, les contraintes, dans une première étape, se traduisent dans un deuxième temps par de l'innovation qui permet de réduire les coûts et les atteintes à l'environnement.
Alors, Timothée Paris, qu'on y est, c'est la principale objection à ce que vous proposez, à la décroissance, c'est non, on peut innover, on peut trouver des solutions nouvelles, innovantes, technologiques, pour régler les problèmes qu'on a posés.
Oui, alors l'innovation, c'est sûrement l'un des termes les plus abstraits et moins définis dont je parlais avant, où on se fait assez facilement enfumer. Et en 1972, quand il y a eu le rapport Halte à la croissance, le rapport Meadows, qui pour la première fois parlait de cette inquiétude, on parlait d'objection de croissance à l'époque, donc une inquiétude vis-à-vis des croissances exponentielles et de l'équilibre des écosystèmes, et les économistes, leur réponse, c'était aussi « vous inquiétez pas, l'innovation nous sauvera ». Mais moi, la question que je pose dans le livre, basé sur une étude qu'on avait faite avec des collègues, c'est de se poser, mais quelle innovation ? Est-ce qu'on parle de brevets spécifiques ? Si oui, où ? Et surtout, il ne faut pas seulement parler d'innovation, mais l'innovation, il ne suffit pas d'inventer quelque chose, il ne suffit pas de se dire, tiens, j'ai inventé une voiture électrique, et là, d'un coup, on va dans son garage et chat, la voiture s'est transformée. Il faut ex-nover aussi. Donc, il faut inventer la voiture électrique, il faut faire sortir ex-nover la voiture thermique et la remplacer. Et on voit bien que ces vitesses, quand on regarde aujourd'hui l'innovation, qui c'est qui investit ? Ce sont des entreprises à but lucratif, commerciales, qui investissent, qui n'ont pas pour mission de sauver le monde. Donc elles investissent par exemple pour inventer, font de l'innovation pour inventer des méga chalutiers, pour être beaucoup plus productifs et attraper beaucoup plus de poissons. Et en fait, cette innovation va créer des nouveaux problèmes ou aggraver le problème de la surpêche. Alors que, donc on voit bien que cette innovation industrielle, elle vient s'opposer à une innovation sociale, peut-être des mouvements citoyens qui vont se dire comment est-ce qu'on fait pour limiter la surpêche, comment on fait pour légiférer, pour justement protéger les fonds marins et toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, vu que les créateurs de problèmes en fait, sont payés beaucoup plus que les créateurs de solutions, et malheureusement, la force d'innovation, c'est-à-dire notre capacité collective à résoudre des problèmes, s'est concentrée sur des problèmes lucratifs et à laisser de côté un petit peu tous les problèmes sociaux et écologiques dans lesquels il y a pas de pognon à faire.
Alors, on comprend bien votre distinction entre une bonne innovation sociétale de civilisation et une mauvaise innovation technologique qui est financée par des gens qui veulent s'enrichir. Quand même, vous allez un peu fort. Il y a peut-être des bonnes innovations technologiques qui vont dans le sens d'une nouvelle société et il y a quand même des innovations vertes.
Oui. Alors, moi, dans mes travaux, j'utilise un cadre qui est celui qui est souvent utilisé par le GIEC, où on a une triade d'options. Éviter, substituer, améliorer.
Oui.
Alors ça, c'est les trois options qu'on a pour réduire un impact environnemental. Éviter, c'est de se dire, je devais aller à une conférence à Hawaï, il n'y avait pas trop d'options, je n'y vais pas, j'évite. Et ça, c'est la façon la plus rapide, certaine, réversible, principe de précaution, de supprimer un impact. Ce qu'on ne peut pas éviter, ensuite, on peut peut-être substituer. Au lieu de prendre un avion pour faire un Paris-Toulouse, je peux peut-être prendre le train. Et donc, réduire mon impact.
Oui.
Et ce qu'on ne peut ni éviter ni substituer, on peut l'améliorer. C'est-à-dire, à partir du moment où l'aide humanitaire qui ne peut pas prendre le train et doit absolument prendre l'avion, c'est bien d'avoir des moteurs qui polluent de moins en moins, d'avoir des mécanismes de compensation. Mais on comprend qu'il y a une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire, tout ce qu'on arrive à éviter, c'est pas mal. C'est des choses qu'on n'aura pas à substituer.
Ouais,
et donc, tout ce qu'on arrive à substituer, c'est des choses qu'on n'aura pas à améliorer. Donc, les innovations vertes, bien sûr, mais moi je suis de se concentrer notre puissance innovative sur toutes ces choses que l'on n'arrive ni à substituer, ni à éviter, au lieu de tomber dans cette espèce de foi aveugle dans le progrès, de se dire l'économie aujourd'hui est parfaite et laissons l'innovation en fait verdir tout ce qui existe aujourd'hui sans avoir aucun mécanisme de prise de décision, sans en fait se poser la question, qui est une question très philosophique, qui est celle de notre posture vis-à-vis de la finitude du monde.
De se dire, la limite, bien sûr.
l'ère de la croissance exponentielle, qui était une sorte de déni des limites, portée par un discours très porté sur l'économie et sa, la manière de le mesurer, donc une mesure très monétaire du progrès, donc sur un tableau Excel, en théorie, ça peut croître à l'infini. Et là, peut-être, on se rend compte que c'est pas possible et qu'on va devoir faire des choix. Et malheureusement, cette fois, dans le progrès technique, c'est un peu la carte joker de dire « Mais non, vous inquiétez pas, l'infini, notre créativité est infinie. » Mais je terminerai là-dessus. Notre créativité a beau être infinie, quand on invente quelque chose, ça prend la forme toujours d'un objet, d'une pratique, et donc ça prend toujours du temps, qui lui sera toujours limité à 24 heures par jour, et de l'énergie et de la matière, qui elle aussi malheureusement sera toujours limitée d'une manière ou d'une autre.
On rappelle d'ailleurs à tous ceux qui voudraient y croire, à ce technosolutionnisme, que ça s'est mal fini pour Dédale, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Il a donc créé ses ailes artificielles pour s'échapper avec son fils du labyrinthe, et son fils en est mort, puisque les ailes artificielles ont fondu alors qu'il s'est approché du soleil, et Icare est mort, noyé sous les yeux de son père. À bon entendeur, salut.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistles sour tunes. I have no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for my lovers in my crimes. Another day without you, I'm better off without you. Another day without you, should I smile? Why should I smile for you? Action so vile, speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you,
et Mélissa Lavo, Why Should I Smile?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Timothée Paris et nous essayons d'imaginer quelque chose qui est dur à imaginer, au fond la sortie du capitalisme, une économie de décroissance, au fond de votre propos d'économiste, il y a aussi une philosophie de la vie, se recentrer sur ce qui rend vraiment heureux, sur nos véritables besoins, arrêter de produire plus, arrêter de consommer plus et être plus heureux au fond dans la solidarité, dans l'entraide. Autre objection qu'on pourrait vous faire, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que quand même on ne pourrait pas réussir à produire plus en polluant moins?
Alors, la réponse scientifique à ça, basée sur les recherches qu'on a empiriques, donc sur le lien entre croissance et pression sur l'environnement, c'est qu'on n'a jamais vu un pays qui arrive à croître, donc produire et consommer plus, tout en faisant baisser l'intégralité de son empreinte écologique. Donc ça, empiriquement, on ne l'a jamais observé, et moi, j'irais même plus loin, je dirais théoriquement, c'est pas possible, sauf si on vient changer un petit peu notre définition de la valeur, ouais, comme on le fait souvent quand on ajuste un petit peu les cadres de comptabilité nationale. Mais il faut, pour ça, il faut se rendre compte, on ne peut pas produire à partir de rien. Ça, on imagine bien. Il faut de l'énergie et de la matière pour faire quoi que ce soit, et même le service le plus dématérialisé, ce qu'on est en train de faire maintenant par exemple, en fait, demande de la nourriture pour qu'on se nourrisse, et il a fallu qu'on nous déplace, il faut qu'on alimente ces micros. Et donc, je veux bien qu'on puisse à la marge baisser ce qu'on appelle l'intensité biophysique de ce que l'on produit.
Ouais, quand même.
Mais comment faire face à la croissance ? C'est un mécanisme exponentiel. Je pense que les gens ne capturent pas véritablement ce que ça veut dire qu'une courbe exponentielle, c'est-à-dire un pourcentage de croissance géométrique à partir d'une taille qui donc va doubler, 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 doubler à l'infini.
Donc mais d'ailleurs, c'est la définition de la croissance. La croissance mesure cette accélération.
C'est ça. À partir du moment où on a une croissance positive du PIB, eh ben, ça va veut dire que fondamentalement, au bout d'un certain temps, l'économie va doubler plus ou moins vite et doubler et doubler. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse accompagner cette croissance de la production, de la consommation, tout en, à chaque fois, arrivant à trouver des solutions à ces problématiques écologiques, alors que pour l'instant, quand même, depuis les années 70, il faut dire que le seul problème écologique qu'on a réussi à régler, c'était celui de la couche d'ozone, et on n'a pas eu beaucoup de résultats sur les autres. Donc la question théorique, elle est intéressante. Après, mes collègues climatologues et biologistes, ils sont beaucoup plus stricts, parce qu'ils nous disent, Timothée, c'est intéressant ta question théorique. Mais nous, la véritable question, c'est est-ce qu'on peut revenir sous le seuil des limites planétaires dans les 3, 4, 5, 10 ans maximum à venir? Et c'est là, en fait, où la réponse scientifiquement, elle devient totale. C'est impossible d'imaginer qu'un pays riche puisse revenir sous le seuil des limites planétaires tout en produisant et consommant plus.
Ça veut dire pas de croissance verte, pour être clair.
Ça veut dire pas de croissance verte. Moi, en ce sens-là, j'ai souvent décrit la croissance verte comme un discours de greenwashing macroéconomique, très souvent utilisé par les gouvernements pour se mettre des bonnes étoiles et pour ne pas... Enfin, c'est un peu un discours de délai d'action, de se dire, ah, vous inquiétez pas, l'économie est en train de se verdir. De la même manière, je fais souvent l'analogie avec le régime, de se dire, voilà, si votre médecin vous annonce que vous devez perdre 20 kilos, vous dites, ah, vous inquiétez pas, moi, cette année, j'ai perdu 4 grammes, regardez, c'est en train de se verdir, votre médecin va faire, bon, vous vous foutez un petit peu de moi, là. Et bien là, c'est pareil, en fait, même les quelque chose qui baissent, par exemple, on pourrait dire les émissions, qui baissent dans certains, une poignée de pays au monde, et qui s'en félicitent, c'est, oh, regardez, on est en train de décarboner notre économie, et bien en fait, le rythme de baisse des émissions est ridicule par rapport à ce que l'on devrait faire. Et c'est là où l'on comprend bien que ce mouvement de baisse des émissions, de décarbonation, eh ben, il pourrait être accéléré de manière significative si on l'accompagnait avec des politiques de sobriété qui consisteraient à renoncer à produire des choses très polluantes et à essayer de consommer moins de ces choses très polluantes.
Timothée Baric, est-ce qu'au cœur de votre réflexion, il y a une référence à la nature ? Puisque dans la nature, rien ne croît à l'infini, rien ne grandit à l'infini dans la nature, tout ce qui croît finit par décroître. C'est une loi de la nature. Est-ce que vous vous référez à la nature ? Et si oui, est-ce que ça n'est pas aussi un des freins ? Parce qu'on a été habitué à penser la culture comme arrachement à la nature, à penser l'ivresse technologique comme une libération par rapport à la nature. Et là, on serait presque invité à revenir à l'étalon de la nature.
Alors, c'est vrai que, moi, bon, en tant qu'économiste écologique, je vois tout ce qui est social comme encastré dans les lois de la physique et dans les lois de la biologie. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est prédéterminé. Et donc, un piano sera toujours constitué de matière. Il faudra toujours de l'énergie pour le produire, mais ça ne va pas venir prédéterminer la musique que vous allez pouvoir en jouer. Par contre, on sait que vous ne pourrez pas jouer plus de 24 heures par jour. Là encore, c'est une loi qui va venir prédéterminer la pratique du piano. Et donc, on a une flexibilité dans l'organisation de nos sociétés humaines, mais cette flexibilité, elle n'est pas infinie. Et est-ce que c'est... Oui, je pense que c'est un rappel à l'ordre. C'est depuis la révolution industrielle et peut-être le capitalisme de ces derniers siècles, en fait, c'est vu comme une émancipation des lois de la physique et de la biologie, de se dire on va pouvoir faire ce qu'on veut sur cette planète. Et en effet, une partie de la planète, une minorité, a eu les moyens d'avoir l'impression de pouvoir faire ce que l'on voulait. Donc par exemple, là, demain, je pourrais me réveiller à Tokyo. Si j'ai envie. C'est quand même quelque chose de... Enfin, il y a quelques siècles, on aurait vu ça comme un super pouvoir. Moi, je peux le faire. Je pense qu'il y a quelques pourcents de personnes dans le monde qui peuvent le faire. La plupart ne pourraient pas. Mais à quel coût ? C'est-à-dire que moi, j'ai le privilège de voyager très loin et très rapidement, mais en utilisant du carbone et de l'énergie fossile, qui est une ressource limitée, qui va ensuite venir malheureusement empêcher une autre personne d'avoir accès à de l'énergie pour satisfaire des besoins. Donc là, c'est pas vraiment un retour aux lois de la nature, c'est plus, ouais, moi, ce que je veux, un retour aux règles du partage. De dire, ouais, si la nature est limitée, eh ben, il va falloir mieux la partager, ou sinon accepter le fait qu'une minorité aujourd'hui de... pas seulement de pays, mais une minorité de personnes riches va juste dilapider notre budget écologique de manière extravagante en une génération et laissera la planète dans un état à la Mad Max avec des personnes qui malheureusement ne pourront jamais satisfaire leurs besoins après ça.
C'est justement une autre objection qu'on pourrait vous faire, c'est qu'il faudrait que tout le monde le fasse en même temps. Qu'est-ce qui se passe si nous, on arrive à décroître dans quelques pays de l'Occident devenus éclairés et que 80% du globe continue à produire et à consommer toujours plus?
Alors, il y a plusieurs façons d'approcher ce problème. Déjà, il faut se rendre compte que le mode de vie... Il y a des sociologues, des collègues qui parlent du mode de vie impérial occidental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde, par exemple, la France, près de 60% de nos émissions, c'est des émissions importées. Donc, c'est-à-dire, c'est des émissions dans tous ces objets qui ne sont pas produits en France, qui ont été produits à l'étranger. Pareil pour l'utilisation de la matière, pareil pour l'utilisation de l'eau. Donc, l'empreinte eau, qui inclut l'eau importée, est beaucoup plus importante que les mesures de consommation nationale d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on arrivait, en fait, à faire décroître l'économie française, on viendrait relâcher énormément de pression sur d'autres pays.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà une chose. Après, il faut éviter ce qu'on appelle les effets rebonds. L'effet rebond, c'est quand on arrive à baisser l'usage d'une ressource quelque part et cet usage va venir rebondir à un autre endroit. Par exemple, on arrête de manger de la viande, mais ça nous libère un pouvoir d'achat et on va se dire « Ah bah tiens, j'ai 300 euros dans mon compte en banque à la fin de l'année, je ne sais pas quoi en faire, je vais aller aux Maldives me faire un week-end. » Et là, on va dire les émissions qui étaient avant dans le bœuf vont rebondir quelque part d'autre. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'organisation sociale et il va falloir... apprendre à vivre et organiser la transition écologique, ça va vouloir dire faire la chasse justement à ces effets rebonds.
Oui, très bien. Vous avez parlé des riches tout à l'heure, parlons-en. 10% des plus riches créent 90% du problème écologique et climatique, on peut dire ça en schématisant?
Alors sur les chiffres, 10%, on est plus à la moitié par exemple des émissions globales, ouais. Quand on regarde les émissions aujourd'hui, si bien sûr on regarde les émissions historiques, beaucoup plus. Et quand on regarde des problèmes, bien sûr, si c'est sur l'impact sur la biodiversité, l'utilisation de l'eau, et ben on va avoir des chiffres différents. Mais je pense que c'est correct de dire qu'une minorité, quand on regarde le top 10% ou le top 20%, concentre la majeure partie des pressions sur l'environnement.
Dans ce cas-là, ça veut dire que les gens à qui vous devez vraiment parler, que vous devez vraiment convaincre, sont les riches.
Alors les riches... relativement, c'est-à-dire que quand on prend le top 20% à l'échelle de la planète, ça rassemble quand même une grande partie de la population française, même des gens qu'on ne considérait pas comme riches dans notre
imaginaire mondial, local. J'entends, oui.
Mais c'est vrai que la décroissance, c'est une stratégie et c'est une discussion, principalement, les gens parfois me critiquent, me disent « mais c'est vraiment un entre-soi de pays riches ». Et de me voir, bah, Timothée, tu travailles, tu fais des scénarios pour la Suisse, la Suède, la France, mais qu'as-tu à dire pour les pays du Sud ? Je pense que justement, ça se combine assez bien de se dire si ce sont ces pays riches et les populations les plus riches de ces pays riches qui monopolisent des ressources naturelles, c'est normal de parler de sobriété, de renoncement, de minimalisme avec ceux qui surconsomment et bien sûr libérer une partie de ces ressources pour pouvoir permettre un développement dans les régions du monde qui n'ont pas la capacité de satisfaire des besoins, donc de construire l'infrastructure matérielle qui mène au bonheur.
Et il pourrait y avoir un effet de modèle, d'exemplarité, des choses comme ça, ou vous n'y croyez pas?
J'essaye de convaincre l'économie suisse de me confier leur pays pendant une année ou deux. Je me dis, au pire des cas, on divise votre revenu national par deux, vous vous retrouvez quand même pas si bas dans le classement. C'est difficile. C'est difficile, on demande toujours, est-ce qu'il n'y aurait pas un pays au monde? On a un peu cette notion, on cherche un petit peu l'utopie cachée qui viendrait nous rassurer. Mais moi, je trouve ça bizarre quand même de se dire que c'est un paradoxe. Alors qu'aujourd'hui, on a cet éloge de l'innovation, on veut toujours être le premier à inventer quelque chose. Inventer un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, une nouvelle application, on veut créer la prochaine licorne. Mais dès qu'on parle de transition écologique ou d'innovation sociale, là, tout de suite, on a les chocottes. On se dit, mais et en Belgique, alors, ils ont déjà fait, aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas justement cet éloge de l'innovation et se dire, là, aujourd'hui, il va falloir inventer un nouveau système économique qui n'existe nulle part, et c'est une bonne chose de le faire.
Très excitant. Timothée Paris, vous êtes sérieux ? Chercheur, mais vous êtes aussi surfeur et vous faites aussi des figures acrobatiques en vélo. Et donc, je vous ai préparé une petite surprise.
Ça, c'est Body. Il se fait appeler Body, ça te va? Toujours en quête.
Il est en quête de quoi?
De la vague. De la vague métaphysique.
Alors, Timothée Paric, vous êtes en quête, vous aussi, de la vague métaphysique?
Alors, dans ma vie personnelle, oui, et je pense qu'on gagnerait plus à tous appliquer un petit peu cette philosophie du surfeur qui vit pieds nus sur la plage. Pourquoi? Parce que les surfeurs sont en recherche de la vague. Et en fait, ont peu d'intérêt pour le travail, pour l'argent, parce qu'ils ont vraiment identifié ce qui leur apportait du bonheur. Et aujourd'hui, déconstruire le consumérisme, le matérialisme, le paradigme du travail et le paradigme de la croissance, c'est de se dire, une économie du bien-être, qu'est-ce qu'elle doit nous apporter? C'est quoi notre recherche? C'est quoi la ligne d'arrivée? Alors bien sûr, on ne va pas tous aller chercher des vagues, mais on va aller chercher d'autres choses et on va pouvoir allouer nos heures, notre énergie, nos matériaux, pour pouvoir atteindre cet objectif.
Timothée Paric, votre livre que j'ai entre les mains aux éditions du Seuil, « Ralentir ou périr », a été un best-seller. Alors, est-ce que vous auriez souhaité qu'il y en ait moins de produits et moins de consommés?
C'est paradoxal parce que, imaginons donc que « Ralentir ou périr », ce qui est important, c'est que les gens puissent le lire, avoir accès à ce livre. Et là, on a plusieurs moyens d'approvisionnement, comme on dit en économie. C'est-à-dire, on a la possession individuelle, on peut l'acheter dans une librairie et l'avoir chacun chez soi. On peut l'avoir, l'emprunter dans une bibliothèque, on peut se le passer. Il peut être disponible en ligne. Et là, on voit bien sûr qu'une économie qui arrive à partager 10 000 copies de Ralentir ou Périr pour que 10 personnes arrivent à les lire, eh ben, sera beaucoup plus efficiente, écologiquement parcimonieuse, qu'une économie où chaque personne a chez soi sa propre copie de Ralentir ou périr. Donc là, on voit aussi que les mécanismes de partage, c'est une très belle façon de baisser l'empreinte écologique.
Mais ça fait moins de droits d'auteur.
Ah bah, de toute manière, les droits d'auteur ne sont pas aujourd'hui véritablement défendus par les maisons d'édition.
Ah bon, bah, on est rassurés. Écoutez, merci beaucoup Timothée Paric de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, ce soleil un peu trop chaud, on le sait. Eh bien, je vais essayer de résumer la philosophie de la vie que vous nous avez fait entendre, donc philosophie de la décroissance évidemment. J'aurais envie de dire aussi de la patience. On sent que vous sentez que ça va être long, que vous allez beaucoup répéter ce que vous répétez, que vous allez convaincre peu à peu et que peut-être le basculement aura lieu, mais finalement, dans longtemps, on le sent. Mais c'est pas grave, il faut y aller. Je dirais aussi... une tension entre de la douceur et de la radicalité. Voilà, on retrouve ça dans la patience aussi. Et puis évidemment, une philosophie un peu idéaliste, vous nous proposez d'imaginer quelque chose qu'on a du mal à imaginer, imaginer une sortie du capitalisme, et vous nous rassurez en nous disant qu'un jour, on est entré dans ce système, on aurait pu ne pas, alors peut-être qu'on peut en sortir. Merci beaucoup, Timothée Paric. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Fabrice Desmazes.